Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati Masanzi.
Le sommet extraordinaire de la CRGL tenu hier à Luanda prend acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes dans l'est de la RDC et invite le M23 au cantonnement. Coup d'envoi ce dimanche à Lubumbashi du 3e congrès eucharistique national organisé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Le ministère de l'Agriculture et le Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture, FAO, ont organisé une mission conjointe du 29 mai au 2 juin dans le paysage de Yangambi. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Nous en parlons avec notre invité Ignace Bouka, directeur des services nationaux de vulgarisation au ministère de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommet extraordinaire de la CRGL tenu hier samedi à Luanda a pris acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes combattantes dans l'est de la RDC. Le sommet a aussi salué le déploiement des troupes angolaises pour sécuriser le précantonnement et le cantonnement des troupes du M23. Selon le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le sommet a réaffirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda adoptée en novembre 2022, ajustée à Addis Abeba en février 2023. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Le sommet de Luanda est également revenu sur l'obligation faite au M23 de faire réellement le retrait des zones occupées pour un pré-cantonnement à Rumangabo, puis le cantonnement au Maniema avant leur intégration au PDDRCS. Les chefs d'État et chefs de délégation ont fixé la date du 23 juin pour la tenue à Luanda de la réunion quadripartite de coordination avec la participation de l'EAC, de la CIRGEL, de la SADC et de la CEAC sous l'égide de l'Union africaine. Outre les pays de la CIRGEL, le sommet de Luanda a connu la participation du président de la Commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, ainsi que la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accompagné des vice-premiers ministres de la Défense et des Affaires étrangères, du ministre d'État à l'intégration régionale et d'autres experts de son cabinet.
Jacques-Yves Molima Aouta sur Radio Kapi. Nous allons activer la programmation des activités futures afin de bien assurer la protection des populations affectées par les conflits armés en Ituri. Déclaration ce dimanche à la presse du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la sécurité et paix Jean-Pierre Lacroix en visite depuis hier à Bounia, chef-lieu de la province. Au sortir d'une conférence avec les gouverneurs, les membres du comité provincial de sécurité ainsi que les agents du système des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix a salué le travail qu'effectuent les autorités provinciales et la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils. Un travail d'ensemble est en train d'être fait pour pérenniser les acquis d'une paix durable et permettre le départ graduel de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
La détermination et l'engagement du gouverneur et de ses équipes, il y a la volonté de faire plus et il y a du côté de la MONUSCO la même détermination à faire plus. Nous allons activer la programmation des activités futures dans le cadre notamment de l'équipe provinciale intégrée de transition. Mais il est clair, et c'est une compréhension que nous avons en commun, que ce départ graduel en Ituri doit se faire de manière à ce que les bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ce départ en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'État, de la présence de l'État. Au-delà de ce qui est fait actuellement, il faut faire en sorte que les gens puissent retourner, et le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours. C'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles et travailler dans la sérénité.
Par ailleurs, au Nord Kivu, plusieurs villages dans le sud du territoire de Lubero sont occupés depuis une semaine par les groupes Mai Mai, Force des Patriotes pour la Paix, Armée du Peuple, FPP-AP. Selon des sources locales et de la société civile, ces groupes armés dirigés par le général autoproclamé Kabido Kassiano est même en train d'étendre sa zone d'occupation dans ces territoires. Conséquence, un déplacement de la population est observé dans la zone. C'est ce que nous dit Martial Papi Mukeba.
Parmi les villages nouvellement occupés par la Force des Patriotes pour la Paix, Armée du Peuple, Yangekeni, Kikuvo, Talihalak, Kanyati et Buhuyo. Selon des sources locales et de la société civile, ces villages de la chefferie de Batangi ont été occupés par ces groupes Maïmaï en l'absence de l'armée dans ces localités. Il y a quelques jours, des militaires du 312e bataillon des unités de réaction rapide des FRDC ont été retirés de la zone pour être envoyés à Kindu, au Maniema, pour un recyclage. D'après les mêmes sources, l'objectif de ces groupes armés dirigés par le général autoproclamé Kabidon Kassiano serait désormais d'étendre sa zone d'occupation pour être traité avec plus d'importance dans le processus PDDRCS. Jusque-là, le groupe Maïmaï FPPAP, qui a son état-major dans les villages d'Emboivignois, n'occupait que 6 villages dans le sud-ouest du territoire de Lubero. Depuis une semaine, ce chiffre est passé à une douzaine de localités occupées par les FPPAP. Contacté, l'administrateur de ce territoire confirme ces informations. Le colonel Ale Kiwewa annonce que les autorités militaires sont déjà informées de la situation sans plus de précision. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, coup d'envoi ce dimanche à Lubumbashi du 3e congrès eucharistique national organisé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. La messe d'ouverture a eu lieu sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul en présence des évêques catholiques venus des 48 diocèses du pays et de quelques pays limitrophes dont la Zambie. Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, ce congrès doit être un temps de rafraîchissement et de consolidation des liens familiaux fondés sur l'amour. Jean Gandou.
Placé sous le thème Eucharistie et famille, ce 3e congrès se veut être un temps de rafraîchissement et de la revitalisation de la chaleur familiale, a indiqué l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba. La famille doit avoir pour socle l'amour sans lequel la société ne peut tenir. De nos jours, la famille est confrontée à de nombreux défis. C'est ainsi que certaines font face à des catastrophes naturelles et à l'insécurité, notamment dans l'est du pays. L'enjeu est de comprendre dans quelle mesure la famille chrétienne africaine en général et congolaise en particulier, peut s'appuyer sur la foi eucharistique pour se consolider et faire face à ce même défi, a indiqué le célébrant du jour Mgr Marcel Outembi. A noter que ce congrès qui démarre aujourd'hui se clôturera le dimanche prochain par une messe qui sera dite par l'envoyé spécial du pape François, son éminence Luis Antonio Cardinal Tagle, qui est attendu dans la capitale du Cuivre le vendredi prochain. Ça sera au stade tout puissant Mazembe de la commune de Kamalondo. Notons que ce congrès est donc le 3e après ceux tenus respectivement à Kisantu en 1933 et à Kinshasa en 1981. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi. Les rapports du ministère de l'Urbanisme et Habitat renseignent que la RDC accuse aujourd'hui un déficit qui se situe à environ 4 millions d'unités de logements, ce qui l'oblige à construire près de 265 000 unités de logements par an. C'est ce qui rapporte le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, qui a lu le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 2 juin. Partant de ces faits, le président Félix Antoine Tshisekedi a décidé de relancer la politique des logements sociaux en République démocratique du Congo, abandonnée depuis au moins 2 décennies malgré l'explosion démographique et a poussé à des constructions anarchiques dans les villes. Alain Irung nous en dit plus.
La problématique des logements sociaux est l'une des préoccupations majeures du président de la République. Avec la disparition de la Caisse nationale d'épargne et des crédits immobiliers CNCI, créée en 1971, ainsi que l'Office national de logement ONEL d'une part, et l'augmentation exponentielle de la population d'autre part, la rareté du logement s'est installée dans la durée et un fossé s'est inexorablement creusé entre l'offre et la demande du logement, a souligné le gouvernement. En guise de réponse, il a été mis en place 3 établissements publics, à savoir l'Agence congolaise de promotion immobilière ACOPRIM, le Fonds national de l'habitat FONAN et le guichet unique de délivrance des permis de construire GUPEC. Le président de la République a souligné que cette triple réforme, appuyée par les partenaires techniques et financiers de Bretton Woods, a pour impact notamment d'améliorer l'accès effectif des populations au logement décent, et ce, à coût abordable, ainsi que de construire le cadre de régulation du secteur du logement décent, longtemps laissé sous l'égide de l'anarchie à cause de la disparité manifeste dans le domaine de l'investissement immobilier.
Merci à vous, Alain Rung, pour toutes ces précisions. Sud Kivu. Bukavu. Dans la ville de Bukavu, des centaines de maisons ont pris feu cette nuit sur l'avenue Kanzaïr, quartier Nkafu, dans la commune de Kadutu. Pour la société civile de Kadutu, les estimations font près de 1000 maisons incendiées. L'origine du feu n'est pas connue jusqu'à présent. Pas de pertes en vies humaines signalées, mais quelques blessés seraient déjà conduits dans des structures sanitaires. Hippocrate Maroumé, président de la société civile de Kadutu, joint par Rachel Kiesimbangu.
C'est plus de 1000 maisons maintenant en termes d'estimation et on peut être à plus de 3000 victimes qui ont vu leur maison partir en fumée. En tout cas, ils n'ont rien sauvé comme bien ou bien autre. On a eu aussi des blessés qui sont actuellement admis dans une structure sanitaire. L'origine du fait jusque-là n'est pas connue. Mais dans la routine, comme les maisons sont entassées les unes sur les autres et nous sommes dans la saison sèche, l'effet, selon les informations reçues, a rebondi d'une maison et puis qui a pu contaminer d'autres maisons. Ça doit être un brasero qui serait à l'origine de ce fait-là. En tout cas, c'est une catastrophe du jamais vu parce que n'est même pas resté dans la même avenue, mais s'est répandu sur une autre avenue du côté avenue Morung, où grâce à l'intervention de la jeunesse, on a pu limiter la propagation du feu. C'est une grande catastrophe qui laisse vraiment trop de dégâts dont nous sollicitons vraiment les autorités au niveau du gouvernement central comme au niveau provincial de voir bien le possible comment voler au secours de ces familles sinistrées.
Direction la province du Congo central, la route nationale numéro 16 qui part de Kisantu dans les territoires de Madimba jusqu'à celui de Kimvula est menacée par une tête d'érosion. Cette érosion se situe dans les secteurs de Ngeba aux environs du point kilométrique 16 entre le quartier Makabi et Makiadi dans les territoires de Madimba. Le chef des secteurs de Ngeba, Jean Bosco Lukusu, qui alerte, craint que la communication entre les territoires de Madimba et celui de Kimvula puisse être coupée. Le point avec Nana Plurish Mambu.
Cette érosion est provoquée par les eaux de la rivière Mansansi, lesquelles rongent de façon continue la route nationale numéro 16 au niveau du secteur de Ngeba en territoire de Madimba. Selon Jean Bosco Lukusu, chef de secteur intérimaire du secteur de Ngeba, cette érosion a déjà emporté plus ou moins 1 mètre de la chaussée à la rive droite de la route qui part vers les territoires de Kimvula. Si l'on y prend garde, cette voie reliant non seulement le Congo central à la province du Grand Bandundu, mais également la RDC à l'Angola, sera coupée en deux. Une telle éventualité mettra en péril les échanges commerciaux, car cette érosion se situe à un endroit où toute possibilité de déviation est exclue. D'où son SOS au gouvernement central.
Nous interpellons les autorités de faire allusion à cette érosion qui veut séparer une route d'importance capitale, la RN16, d'intervenir rapidement, sinon ça serait alors une catastrophe.
Signalons qu'en dehors de cette érosion, la route nationale numéro 16 s'est détériorée depuis plus d'une décennie. Sa réhabilitation a été prévue dans le projet des 5 chantiers de l'ex-président de la République Joseph Kabila et dans celui des 100 jours du chef de l'État actuel Félix Tshisekedi, mais sans aucune réalisation. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, la journée mondiale du pied bot, c'était hier 3 juin. Au Nord Kivu, ce sont au moins 908 pieds bots qui ont été soignés et guéris à l'hôpital El Africa pour l'année 2022 à Goma, mais aussi dans 10 autres cliniques partenaires implantées dans les corridors est de la RDC, soit 66% des garçons et 34% des filles. Ce bilan, qualifié de satisfaisant, a été présenté vendredi à Goma lors de la célébration anticipée de la dite journée. Quel est le message clé à retenir de cette journée mondiale du pied bot? Bernardine Diambou signe ce reportage.
En marge de cette journée, Il Africa a encouragé les parents à pouvoir vite acheminer leurs enfants de moins de 2 ans qui naissent avec cette malformation dans des cliniques proches de leur milieu d'origine. C'est notamment à Bukavu, Uvira, Kindu, Bunia, Oicha, Beni, Kaina, Butembo, Mangina et Maboa, cliniques partenaires où le traitement est gratuit car selon le docteur Simplice Kigoma Vuhaka, chirurgien orthopédiste, cette maladie peut être guérie si l'enfant est vite pris en charge.
Ce n'est pas une maladie de culpabiliser surtout la femme africaine, mais c'est une maladie dont on ne connaît pas la cause, que nous appelons idiopathique.
À l'occasion, 15 enfants guéris complètement des pieds bots se sont vu décerner des certificats de guérison après 4 ans de traitement en ambulatoire et de suivi à l'hôpital Il Africa de Goma. Satisfaction d'une maman venue de Walikale, Riziki Busanga.
Je remercie Il Africa et son staff. Je ne savais pas que mon enfant pourra guérir. aujourd'hui je vois un changement.
Il faut noter que ce projet, qui a débuté depuis 2021, concerne uniquement les enfants de moins de 2 ans dont les pieds beaux peuvent être traités. Et cela grâce à l'appui matériel de Hope Holkis, le partenaire principal de ce projet. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le glissement des terrains survenu ce dimanche dans la province du Sichuan du sud-ouest de la Chine a fait 14 morts et 5 disparus, a indiqué le gouvernement local. L'éboulement s'est produit en haut d'une montagne sur le site d'une ferme forestière près de la ville de Lishan et des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, précise le communiqué du gouvernement local. Un membre des forces de sécurité égyptiennes a été tué hier lors d'un échange de tirs à la frontière israélo-égyptienne, a indiqué l'armée dans un communiqué. Un membre des forces de sécurité pourchassant des trafiquants de drogue a traversé un point de contrôle. S'en est suivi un échange de tirs avec les forces de sécurité israéliennes ayant fait 3 morts côté israélien et celle du membre des forces de sécurité égyptiennes, a déclaré le porte-parole des forces armées égyptiennes.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, une délégation mixte ministère de l'Agriculture et FAO a séjourné à Yangambi du 29 mai au 2 juin dernier. En quoi a consisté cette mission et quelles sont les impressions du chef de la délégation au terme de cette mission? Ignace Gouka, directeur du service national de vulgarisation au ministère de l'Agriculture, s'entretient avec Jacques Moukonkoli.
Inès Gouka, bonjour. Vous venez d'effectuer une mission conjointe avec la FAO dans le paysage de Yangambi. Quel a été l'objectif de cette mission?
Il s'agit d'une mission conjointe, le ministère de l'Agriculture et la FAO, dans le cadre de l'évaluation des activités menées par CIFOR au niveau de la province de la Tchopo, plus précisément à Yangambi et à Yanongé. Nous étions partis pour pouvoir voir ou palper les activités menées par CIFOR dans le cadre de l'agroforesterie. Et nous avons d'abord commencé par Yangambi, où nous avons vu à travers les activités menées sur terrain, notamment ce qui concerne ce qu'on appelle la formation, donc le renforcement des capacités que CIFOR est en train d'organiser avec l'appui de l'Union européenne. Également, pour l'accompagnement et la vulgarisation des activités à travers ce qu'on appelle les champs écoles de producteurs. À ce qui concerne la production végétale, et également pour les troupeaux écoles producteurs pour l'élevage. Et on était vraiment très impressionnés sur les activités, et c'est ce qui nous a amené, n'est-ce pas, de venir faire, disons comme on dit, ce qui a été réalisé par CIFOR. On est très contents.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans toutes ces activités que vous avez visitées?
Bon, vraiment, quels sont les changements de comportement des producteurs, les changements de mentalité et surtout les transferts de connaissances. À partir des champs écoles de producteurs, les connaissances qu'on a transmises aux communautés locales en ce qui concerne les techniques de production pour conserver ou pour protéger l'environnement. Ça, c'était vraiment très intéressant pour nous. Non seulement sur le plan la production végétale, mais également sur le plan la production animale. C'était vraiment très intéressant.
Est-ce que ces différentes activités peuvent avoir un impact en ce qui concerne la sécurité alimentaire, par exemple?
Mais effectivement, puisque bon, la sécurité alimentaire prend beaucoup d'aspects, mais nous sommes au niveau du secteur agricole. C'est vraiment la base même de la sécurité alimentaire, pour tout ce qu'ils produisent sans entrer non seulement dans l'alimentation, de la famille, mais également ça aide dans la commercialisation pour aider dans leur vie, aider les enfants à l'école, la santé et tout ça là. Et réduire également tout ce que nous appelons les importations.
Dans l'exécution de ces projets, qu'est-ce que CIFOR ICRAF peut attendre du gouvernement?
Et ce qui est très important pour cette mission également avec CIFOR, ça c'est très important. Maintenant, nous sommes en partenariat, gouvernement, entre guillemets, avec privé, bien sûr avec l'appui de l'Union européenne. Et nous allons vraiment les accompagner, puisque nous devons assurer la pérennité des activités, la durabilité des activités sur le terrain. Peut-être un jour le programme va prendre fin, mais c'est le gouvernement qui va maintenant continuer à assurer cette pérennité pour pouvoir être toujours auprès des producteurs au niveau de la communauté.
Ignace Gouka, je vous remercie.
Notre invité, Ignace Gouka, directeur des services nationaux de vulgarisation au ministère de l'Agriculture, était interrogé par Jacques Moukonkole. Ainsi s'achève ce journal de midi de ce dimanche 4 juin 2023 sur Radio Capi. Il a été coordonné et supervisé par Alain Rongmouchiche et mis en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.